la continuité de l'évangile de Matthieu. Il n'y a pas de surprise. La semaine dernière, je vous ai parlé procès de Jésus. Aujourd'hui, je vais vous parler de la crucifixion Jésus. La semaine prochaine, je vous parlerai de la résurrection de Jésus. Donc, vous êtes au courant, en tout cas, la semaine d'après, pardon. Donc, je vous parlerai de la résurrection de Jésus. Donc, au regard de la prédication de ce matin, je me suis dit peut-être que j'aurais dû faire la prédication avant la Sainte-Cène. Au moins, on aurait un peu compris un peu certaines choses par rapport à la crucifixion de Jésus. Et donc, nous allons regarder un petit peu ce texte. Alors, le texte est long. Je ne vais pas pouvoir le lire, mais vous allez le comprendre au fur et à mesure de la prédication qui va avancer ce matin. Alors, au regard de l'histoire, quand on regarde l'histoire, les Romains étaient des barbares. Et même si j'ai toute la collection à la maison de Astérix et Obélix, de la bande dessinée d'Astérix et d'Obélix, de René Goscinny et d'Albert Uderzo, où il est montré dans cette BD que les Gaulois, paraît-il, aimaient bien donner quelques baffes de temps en temps aux Romains, l'histoire ne nous montre pas du tout cela. Et j'aime beaucoup cette bande dessinée, mais en même temps, l'histoire ne nous montre pas du tout cela. Les Romains étaient des personnes dures avec leur ennemi. Ils savaient gérer les périodes de guerre, et quand on regarde un petit peu, quand ils ont envahi les peuplades qui étaient autour d'eux, eh bien, croyez-moi qu'ils ont manifesté de la cruauté vis-à-vis de leur ennemi. L'homme sait être méchant. L'homme sait être cruel avec ses semblables. Cette semaine, j'ai eu l'occasion de regarder pour la 10e fois la liste de Schindler. Et ce film est vraiment cruel. Quand on le regarde, quand on l'analyse, quand on essaye de voir ce que ce film est en train de raconter, eh bien, je trouve que l'homme a été cruel avec les autres hommes. Parce que tout simplement, pour certaines personnes, ils étaient plus petits que les autres. Eh bien, juste pour vous montrer que la crucifixion de Jésus, et les Romains n'ont pas été si tendres que ça, dès qu'on lui a donné la possibilité de devenir cruel, eh bien, les cohortes des soldats romains ont manifesté beaucoup de cruauté. Les évangiles Matthieu, Marc, Luc et Jean nous ont transmis cette histoire. Et pratiquement tous parlent de la souffrance et de la mort de Jésus. Alors on va essayer d'analyser un petit peu cette souffrance endurée par le Seigneur. Alors bien sûr que nous devons comprendre pourquoi le Seigneur est passé par là, mais nous allons essayer aussi d'analyser ensemble pour vous montrer la cruauté de ces personnes-là qui étaient les Romains de l'époque. À partir du verset 27, du chapitre 27. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire, et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils dressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, ils le raillèrent en disant « Salut, roi des Juifs !» Ils crachaient contre lui, prenaient le roseau et frappaient sur sa tête. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau, le remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Lorsqu'il sortit, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon et ils le forcèrent de porter la croix de Jésus. Arrivé au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie « lieu du crâne », ils lui donnèrent à boire un vin mêlé de fiel. Mais, quand il l'eut goûté, il ne le voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qu'il avait été annoncé par les prophètes. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Puis ils s'assirent et le gardèrent. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, en écrivant au-dessus de sa tête, « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. » Avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à droite et l'autre à gauche. Les passants l'injurièrent et secouaient la tête en disant « Toi qui as détruit le temple et qui le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui en disant « Il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. » Et il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. Car il est dit « Je suis fils de Dieu ». Les brigands crucifiés avec lui l'insultèrent de la même manière. Depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième, il y eut des ténèbres dans toute la terre. Et vers la neuvième, Jésus s'écriant d'une voix forte « Eli, Eli, lama sabachthani », c'est-à-dire « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire « Il appelle Élie », et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre, et l'ayant fixé sur un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient « Laissez, voyons si Élie viendra le sauver ». Jésus poussa de nouveau un grand cri et il rendit l'esprit. Voilà, je vais juste m'arrêter là ce matin. En tout cas, pour la première partie, nous pouvons remarquer, en tout cas, pour la partie première, Jésus a souffert, a enduré la moquerie. C'est-à-dire que une des premières choses que nous voyons au cours de la crucifixion, c'est que dès que les Romains ont eu le feu vert, ils se sont pas gênés. Ils sont allés le prendre, le texte nous dit clairement, Jésus est emmené au prétoire et toute une cohorte est là pour le ridiculiser, littéralement. Ils le dévêtirent, ils lui dressèrent une couronne d'épines, ils lui crachèrent au visage. Et le texte nous montre bien clairement que s'ils auraient pu en faire plus, ils en auraient fait plus. Alors, bien sûr qu'ils n'avaient là aucune limite. Je tiens quand même à vous signaler que c'était un prisonnier innocent. Même Pilate reconnaissait qu'il n'avait rien à lui, apparemment, d'après ce qu'il disait, il était innocent. Mais il a voulu écouter le peuple, et je pense que les soldats se sont bien amusés pendant quelque temps, en tout cas avec lui. Je voudrais juste faire des petits parallèles ce matin avec le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Il y a beaucoup de faits donnés, beaucoup de prophéties données dans l'Ancien Testament. Ça a été une des raisons, pour moi personnellement, de croire à la véracité de la Bible. C'est-à-dire que la Bible donne des faits, je dirais, dans le détail. Et on peut se dire, mais si on écoute un petit peu ou si on lit un petit peu, certains faits ont été écrits 800 ans et même plus avant Jésus-Christ. C'est-à-dire que la période romaine, Ésaïe ne la connaissait pas. David, quand il donne certains versets, il connaissait sa période, je dirais, qu'il était en train de vivre, mais il ne connaissait pas la période romaine, et pourtant, certains faits sont si détaillants qu'on est surpris de voir que de la clarté du message de Dieu dans l'Ancien Testament. Ésaïe 50, verset 6. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient. C'est ce que nous venons de lire. Jésus a livré son dos. Alors, il n'est pas dit aux Romains dans Ésaïe, mais il est dit quand même, j'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient. Et mes joues de ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dévoré mon visage aux ignominies et aux crachats. Quand même, c'est incroyable, n'est-ce pas, de voir une précision aussi merveilleuse dans l'Ancien Testament et redonner là. Jésus a supporté toute cette douleur et cette humiliation sans parler, sans se venger. Dieu aurait pu venir intervenir à un moment donné. Non, il a préféré garder le silence. Deuxième souffrance endurée par Jésus-Christ, c'est la crucifixion. Alors, la crucifixion était quelque chose de très cruel et de très honteux, et même douloureux. Certains films à Hollywood, ils le montrent bien. Quand vous regardez l'histoire de Spartacus, eh bien, Spartacus finit malheureusement sur un poteau, avec toute l'armée militaire qu'il avait. Donc, c'était vraiment quelque chose de cruel. Mais la crucifixion, n'était pas quelque chose très généralisé parmi les Romains. C'était pas quelque chose qui était dans la bonne société. C'est-à-dire que les Romains n'avaient pas eux-mêmes été crucifiés par leurs semblables. Par contre, les ennemis des Romains, alors là, c'était quelque chose de dégradant et ils l'ont montré à maintes reprises au cours de l'histoire. Là, Jésus est emmené donc dans un lieu nommé Golgotha. C'est en centre-ville. Si vous allez à Jérusalem, c'est aujourd'hui juste à côté d'une mosquée qui crie plus fort que des chrétiens qui sont là quand ils veulent prier. Mais en attendant, c'est un endroit en plein centre-ville, vu de tout le monde. Et durant la marche pour aller dans cet endroit, pour rater un petit peu le pas, eh bien, les soldats enrôlèrent un passant, donc apparemment, c'est Cyrène, un homme Cyrène, appelé Simon, qui revenait d'un champ, et pour accélérer un peu la marche, eh bien, les soldats l'ont récupéré pour l'obliger à porter sa croix. Mais, en réfléchissant un petit peu, Jésus ne s'est pas du tout endormi, hein. Pendant toute la nuit, on l'a frappé, on lui a craché dessus, on l'a humilié pendant toute la nuit. Vous pensez bien que quand arrive le matin, puisque la crucifixion va être à peu près avant 9h du matin, donc vous pensez bien que toute la nuit le Seigneur a souffert toute cette injustice, et nous voyons que les évangiles nous parlent. Alors, certains vont mettre l'accent sur la crucifixion, d'autres vont mettre l'accent un petit peu sur les généralités, en tout cas de la crucifixion. Mais en attendant, le but final était bien que Jésus soit crucifié. Je voudrais quand même vous rappeler que les deux brigands crucifiés avec Jésus-Christ se sont même eux mis à l'insulter. C'est dit dans le verset 44. Alors il va se passer quelque chose de merveilleux après, par la suite. Matthieu n'en parle pas, mais notre évangile en parle, mais pour vous montrer que même ceux qui ont été crucifiés avec Jésus ne se sont pas gênés pour insulter Jésus. Troisième souffrance endurée, c'est la moquerie des Juifs. Vous avez ce passage entre le verset 39 et le verset 44 qui nous le dit clairement. Se sont tous mis à l'injurier. La crucifixion n'était pas un endroit caché. On dit aujourd'hui, pour vivre heureux, vivons cachés. Là, la crucifixion, ce n'était pas quelque chose de caché. Tout le monde était au courant à Jérusalem de ce qui était en train de se passer. Et cela devait être vu par tout le monde, ce qui était en train d'être fait là à Jésus-Christ. L'humiliation a porté son terme jusqu'à un point où même les Juifs sont venus là lui dire, eh bien écoute, sauve-toi toi-même, tu dis que tu es le sauveur, eh bien descends et nous croirons en toi. Une petite question. À votre avis, s'il serait descendu, est-ce que vous pensez que les Juifs auraient cru en Jésus-Christ? Pas du tout. Pas du tout. Et je crois que on a beau dire tout ce qu'on veut, mais ils l'ont quand même porté à la croix, et ils pouvaient dire tout ce qu'ils voulaient. La moquerie les a mis au-delà. Et ils sont allés à un point même de l'humilier dans ce domaine. Et nous devons vraiment nous le rappeler que Jésus est allé jusqu'au bout. Troisième, quatrième souffrance endurée par Jésus, c'est le rejet de son Père. Même son Père ne l'a plus regardé à un moment donné. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il est devenu ténèbre. La Bible nous dit qu'il est devenu ténèbre à notre place. L'obscurité est devenue, à un moment donné, Jésus a gardé cet instant particulier jusqu'à ce qu'il dise à un moment donné, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Citation textuelle de Psaume 22, verset 2, où nous voyons que ce texte est clairement donné aussi dans ce passage. Le psaume, en tout cas 22, vous raconte un petit peu les événements de la crucifixion. Et nous avons cela, en tout cas, là, où même Jésus va s'écrier à un moment donné, « Tout est accompli, puisque le Seigneur lui-même, à un moment donné, le dira. » Eh bien, Jésus poussa à nouveau un grand cri et il rendit l'esprit. Un cinquième point que je voudrais aborder avec vous, c'est les signes surnaturels qui vont survenir pendant cette période de la crucifixion. Verset 51. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre, et ceux qui venaient d'arriver furent saisis d'une grande frayeur et dirent assurément, cet homme était fils de Dieu. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce passage. Les raisons, elles sont toutes simples. C'est que le Seigneur, pendant cette période, Dieu, pendant cette période, a envoyé des signes bien particuliers pour secouer l'humanité. Et ce texte nous montre quatre signes particuliers. Les ténèbres, qui ont duré un certain temps. Vous avez les tremblements de terre, qui ont été aussi assurément l'occasion de pouvoir réveiller des morts. Je pense que c'est par la puissance de Dieu, cela, un voile qui se déchira en deux. Vous avez cela dans le verset 51. Et puis, vous avez le quatrième et dernier signe, plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitent. Alors, on peut quand même se poser quelques questions par rapport à cela. Eh bien, les ténèbres et les tremblements de terre révèlent la grandeur de la crucifixion, l'abomination. Je voudrais quand même vous rappeler que grâce au tremblement de terre, un centurion va dire à un moment donné « Assurément, cet homme était fils de Dieu. » Vous savez, je suis convaincu de plus en plus dans mon cœur que certaines situations qui se passent aujourd'hui dans le monde doivent faire tourner l'humanité à Jésus-Christ. Je suis convaincu dans mon cœur de plus en plus, pour employer un terme du monde, vous avez encore une chance d'accepter Jésus-Christ aujourd'hui. J'aime pas du tout cette expression, pardonnez-moi, mais le Seigneur nous donne une occasion à cette humanité, aujourd'hui encore, de l'accepter en tant que Seigneur. Est-ce que nous avons besoin de temps en temps de ténèbres, de tremblements de terre? Mais oui. L'humanité est dure. L'humanité est dure. Quand elle ne veut pas croire, elle ne croit pas. Aujourd'hui, c'est le plaisir, l'amusement. C'est tout ce qui compte à l'humanité aujourd'hui. Et l'humanité a besoin de temps en temps de se rappeler comme ce soldat, assurément, cet homme était fils de Dieu. Troisième signe, c'est le temps, le voile qui se déchire des deux. Alors, il y a là beaucoup de choses à dire, mais c'est une marque de la fin de l'ancienne alliance avec la nouvelle alliance, de la loi, c'est la nécessité du sacrifice et du souverain sacrificateur comme intermédiaire entre les hommes et Dieu, c'est-à-dire c'est plus nécessaire aujourd'hui. Et vous avez un texte qui est dans Hébreux, chapitre 10, qui nous le dit clairement. Nous avons une libre entrée dans le sanctuaire, car la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous, tous au travers du voile. C'est-à-dire que l'Épître aux Hébreux nous rappelle que grâce à la crucifixion, nous avons une libre entrée aujourd'hui dans le Saint des Saints. À l'époque, c'était réservé uniquement à une certaine élite. Grâce à la crucifixion, aujourd'hui, nous avons un libre accès. Et puis, là, dans le dernier signe, verset 52, c'est les plusieurs corps des saints qui étaient morts et ressuscités. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, en tout cas dans ce passage, mais il est quand même étonnant de voir que Dieu, au travers de ce miracle, eh bien, il a voulu donner une espérance merveilleuse à tous les chrétiens. Et c'est l'histoire, je dirais, de toute la vie de la chrétienté. C'est-à-dire que grâce à Jésus, eh bien, les croyants vont ressusciter. Grâce à ceux qui vont croire en Jésus-Christ, tous les croyants, un jour, vont ressusciter. Les chrétiens qui meurent aujourd'hui ont l'assurance de partir direct auprès de Dieu. Direct. Il n'y a plus une possibilité d'aller dans un autre endroit. Dieu promet de suite d'être dans sa présence avec lui dans l'éternité. C'est pas quelque chose de merveilleux, cette crucifixion. Je me dis, c'est vrai qu'il y avait de la cruauté là, dans cette période, en tout cas, et les soldats ne l'ont pas ménagé, Jésus, mais c'était dans un but bien précis. Laissez-moi finir le texte par ce matin par deux passages de la Bible. Romains chapitre 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Voilà la raison de la crucifixion. Oui, Dieu aurait pu arrêter la crucifixion. Oui, Dieu aurait pu envoyer des choses encore plus merveilleuses dans cette histoire. Oui, Dieu aurait pu faire des choses incroyables ce jour-là, mais il a laissé crucifier son propre fils. Pourquoi ? Parce qu'il nous aime. C'est pas merveilleux ça ? Parce qu'il nous aime. C'est la raison. C'est la raison. Dieu aime l'humanité. Et elle veut que l'humanité soit avec lui dans l'éternité. 1 Pierre chapitre 1er, versets 3 et 5. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il nous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers temps. Nous avons, frères et sœurs, une espérance vivante en Jésus-Christ. Jésus-Christ, vous allez le voir la prochaine fois, il n'est pas resté sur la croix. Il va être descendu de la croix, il va être mis dans un tombeau. Il ne va pas être mis, il ne va pas rester dans le tombeau. J'ai eu le privilège, il y a quelques mois, de visiter, selon la tradition, le tombeau de Jésus-Christ à Jérusalem. Il n'y a plus personne dans le tombeau. Si vous faites un jour ce voyage en Israël, je vous le souhaite, il n'y a plus personne. Toutes les personnes qui sont rentrées là-dedans voient que c'est un tombeau taillé dans une pierre. Une grosse pierre pouvait être roulée devant, elle n'y est plus aujourd'hui. Mais si vous rentrez dans ce tombeau, il n'y a plus personne. Pourquoi ? Parce que la Bible dit qu'il est vivant, il est ressuscité. Et cela nous donne toute une espérance dans nos vies. Cela devrait nous réjouir. Jésus est mort, c'est vrai. Jésus est crucifié, mais il est aussi vivant. N'est-ce pas votre espérance ce matin ? De savoir que Jésus est notre espérance vivante par la résurrection. Amen. Amen. Alors que cela puisse nous encourager durant la semaine, que vous puissiez être encouragés de savoir que vous avez un sauveur vivant. Il est mort, c'est vrai, mais il est aussi ressuscité. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse avec cette grande espérance.